dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza.
Bonsoir à tous et à toutes, joyeux Noël, bienvenue dans Focus Sahel, votre émission dédiée à l'actualité, aux enjeux majeurs qui façonnent les pays du Sahel. Alors que 2024 s'achève, nous revenons sur quatre reportages marquants de l'année qui mettent en lumière le patrimoine historique, la créativité, la résilience et les initiatives de paix dans cette région. Ces histoires illustrent aussi des défis et des innovations, mais aussi des espoirs pour l'avenir. Au Mali, Gao redonne vie au tombeau des Askia, un patrimoine mondial au cœur des défis climatiques et sécuritaires. Burkina Faso, du garage au luxe, Sao Ouedraogo et l'art de transformer des voitures ordinaires en chef-d'œuvre à Ouagadougou. Niger, Bénin, des voix unies pour la paix avec des artistes nigériens et béninois face aux tensions diplomatiques entre les deux voisins. Mauritanie, le pastoralisme au Sahel, entre succès du projet PRAPS et défis pour 2025. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Au Mali, le tombeau des Askia, érigé à la fin du 15e siècle, a vu le début d'une restauration ambitieuse, malgré les défis climatiques et sécuritaires. Ce monument, témoin de la grandeur de l'Empire Songhai, retrouve son éclat d'antan et continue d'attirer l'attention des experts et des visiteurs, illustrant l'importance de la sauvegarde du patrimoine dans un contexte difficile. Michel Claire-Joseph.
Au cœur de Gao, le tombeau des Askia se dresse majestueusement, témoin de la grandeur passée de l'Empire Songhai. Ce monument en terre crue, construit en 1495 par Askia Mohamed, est un symbole indéniable de l'histoire malienne. Mamadou Samake, chef de la mission culturelle de Gao, souligne l'importance de ce monument.
Le tombeau des Askia, c'est un monument historique qui a été construit par Askia Mohamed depuis 1495. Bon, c'est un monument très très ancien qui montre la puissance et la grandeur de l'Empire Songhai, une preuve matérielle vivante aujourd'hui. Donc c'est un monument qui est inscrit aussi sur la liste du patrimoine national et sur la liste du patrimoine mondial. Donc depuis 2004.
Les habitants de Gao partagent la fierté qu'inspire ce site. Oumar Seydou Maïga souligne l'importance culturelle du tombeau.
C'est un musée pour nous, si le mot me permet. Et puisqu'il y aura des historiens qui quittent de lointain pour venir visiter notre site. Et le tombeau des Askia, ça a donné une image pour la région de Gao. Et à chaque fois, c'est une fierté pour nous ici.
Mais malgré cette fierté, le site montre des signes de faiblesse. Sous l'effet des pluies torrentielles, une partie du toit de la mosquée attenante s'est effondrée, rappelant la fragilité de ce trésor de terre crue. Sous la direction de l'architecte Abdoulaye Cissé, le projet bénéficie de l'expertise en architecture de terre crue, un défi face aux conditions climatiques rigoureuses. La restauration redonne vie à la tour pyramidale, emblématique du tombeau, un travail complexe mais essentiel. Abdoulaye Cissé se veut rassurant.
Certes, il y a le maintien et des actions d'entretien et de maintien par le comité de gestion, par les communautés, mais entreprendre de telles actions pour réhabiliter entièrement la mosquée, c'est la première fois. Donc c'est vraiment un grand chantier auquel nous attelons à ce que tout soit parfaitement réalisé tel que prévu.
La restauration du tombeau, financée par Alif, une fondation internationale dédiée au patrimoine en zone de conflit, mobilise les artisans locaux. Des savoir-faire ancestraux sont ainsi mis à l'honneur avec une attention particulière à l'utilisation du bois de Hassou pour conserver l'authenticité du site. Pour les historiens comme Mohamed Soumeilou Traoré, cette rénovation revêt une importance particulière, tant sur le plan historique que culturel.
Cette rénovation est nécessaire puisque, comme le nom le désigne, le tombeau des Askia. On a plusieurs Askia enterrés devant cette mosquée, dans l'enceinte même. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, ces tombes. Il s'agit de plusieurs Askia. À Gao seulement, il y a eu 10 Askia qui se sont succédés.
Les habitants, fiers de leur héritage, espèrent raviver l'intérêt touristique et culturel pour cette région. Mamadou Samaké souligne que les travaux de restauration ont attiré de nouveaux visiteurs qui viennent désormais admirer la tour pyramidale restaurée à son état d'origine, ce qui a relancé l'intérêt pour le site.
Oui, je pense que ça va relancer la visite, parce qu'avec au cours des travaux, on a même vu il y a des gens qui sont venus visiter, qui ne sont jamais venus, qui sont venus apprécier, surtout à travers la tour pyramidale. Ils ont vu que ça a été corrigé, les angles, l'escalier, la cage d'escalier, et il y a la base aussi a été renforcée. Donc ce travail qui a amené la tour pyramidale à son état ancien, depuis les années très très anciennes, les années 50 ou avant ça, donc ça a permis à la population quand même de venir visiter. Et tous les jours, on a des visiteurs qui sont là.
Malgré les aléas du climat et l'histoire mouvementée du Sahel, le tombeau des Askia demeure un symbole de résilience et de fierté pour la population de Gao. Grâce aux efforts des artisans et des communautés, cette merveille de 500 ans continue de défier le temps, assurant sa transmission aux générations futures pour préserver cet héritage inestimable.
Nous retrouvons en ligne Lassana Cissé, expert en patrimoine et développement local, président actuel du Comité national malien du Conseil international des monuments et des sites. Monsieur Cissé, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric.
Le tombeau des Askia, l'un des reportages choisis pour notre rétrospective, monsieur Cissé. Où en est la restauration du tombeau des Askia aujourd'hui et quelles mesures ont été prises pour garantir sa préservation à long terme face aux défis climatiques ou sécuritaires qui restent à surmonter?
Oui, merci pour la question. Il y a des actions d'envergure qui sont en cours, qui ont été entreprises depuis 2022, je crois. Et en fin novembre, il y a eu le comité de pilotage, d'ailleurs, du programme de restauration qui est financé par la fondation Alif, comme on vient de le dire. Alif, c'est donc une fondation qui soutient le patrimoine en situation de conflit et situation d'urgence. Donc c'est un grand chantier autour de la tour pyramidale, mais pas seulement ça, d'autres éléments du site comme les mosquées qui ont été... Il y a deux mosquées, celle des femmes et celle des hommes, qui ont été aussi touchées par les dernières inondations, les grosses pluies tombées au Sahel cette année. Donc le chantier avance très bien et Samaké l'a fait constater, les gens visitent, parce que c'est vraiment des grands travaux qui ont été entrepris pour redonner... pour que le monument retrouve son lustre d'antan et dans l'esprit de la Convention de 72 de l'UNESCO pour la protection et la conservation du patrimoine mondial.
Cette restauration peut-elle contribuer à renforcer le sentiment d'unité et d'appartenance culturelle dans la région de Gao en 2025?
Bon, le sentiment, c'est qu'il y a une mobilisation, une forte participation. Il y a une mobilisation de la population autour de ce témoignage exceptionnel que le tombeau des Askia, le site, le monument. Et donc ça, effectivement, ça constitue, un rassemblement, un regroupement, une cohésion. Surtout qu'il est prévu des travaux d'entretien, ces gros chantiers-là, et des travaux communautaires comme on les faisait dans le temps, des travaux communautaires qui regroupent toutes les communautés de Gao, c'est-à-dire les trois grandes communautés, les Songoy, les Armas et puis le Peul. Voilà, donc toutes ces grandes communautés se retrouvent sans distinction de race ou d'appartenance linguistique pour toute une journée mobilisée pour réhabiliter et crépir le tombeau avant la saison des pluies. Et je crois que ce mouvement va persévérer, va persister autour pour l'entretien, la protection, la conservation durable des monuments. C'est une forte mobilisation, tout le monde se reconnaît dans ce monument.
Merci beaucoup, monsieur Lasna Cissé. Je signale que les populations locales et les autorités collaborent pour préserver ce site emblématique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. À Ouagadougou, au Burkina Faso, Sao Ouedraogo, mécanicien passionné, a captivé les esprits avec sa capacité à métamorphoser des véhicules modestes en véhicules de prestige, à l'image de sa dernière création, une limousine faite maison. Son atelier est devenu un symbole d'innovation et de persévérance dans un contexte économique difficile. Suivez ce reportage de Gilles Dasda avec le récit de Jean-Roger Bion.
En 2023, Sao Ouedraogo, 38 ans, passionné d'ingénierie, s'est lancé dans un projet audacieux. Ce qui n'était qu'une modeste Honda Civic a été transformé en une limousine glamour.
Et j'aime aussi les défis. Voilà, ça m'a mené à découper les véhicules. Et quand je les faisais, tout le monde, la famille, les amis, les clients du garage, tout le monde se dit que non, c'est pas la peine, que je vais gâter le véhicule. Je dis non, ça m'appartient. Voilà, laissez-moi faire. Donc, c'est quand j'ai fini de réaliser, je suis venu voir que moi, c'était vraiment une limousine qui roule très bien.
Ouedraogo aime les voitures depuis l'âge de 12 ans. Après avoir échoué à l'école primaire, il a suivi des cours de mécanique et a effectué des petits travaux dans d'autres garages. Il a fini par ouvrir son atelier en 2016. Depuis, il a réussi à en faire un garage opérationnel qui emploie 15 personnes.
C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, son courage et les défis aussi qu'il aimerait relever. On est tous partants pour relever ces défis dans le secteur de l'automobile.
La fascination de Ouedraogo pour les limousines lui vient des vidéoclips de chanteurs américains et des films qu'il regarde à la télévision depuis son enfance. Il rêvait d'en avoir une et a donc décidé d'en construire. Ouedraogo explique que la construction d'une limousine n'est pas une tâche facile. Il a parfois dû casser des choses et recommencer pour obtenir la bonne structure et les bons matériaux. Il lui a fallu un an pour se préparer, dessiner ses plans et affiner ses recherches.
Le matériel que j'ai utilisé, c'est des matériels de récupération. D'autres sont des tôles que j'ai achetées, neuf des barres de fer et métalliques que j'ai réussi à acheter. Et puis, pouvoir assembler et voilà, la carrosserie.
Une limousine circulant dans les rues de Ouagadougou est un spectacle qui fait tourner les têtes.
J'ai eu la chance de rentrer dans la limousine aujourd'hui. Et vraiment, côté confort, je ne peux que dire que c'est vraiment confortable. On est vraiment à l'aise avec une climatisation qui donne vraiment à fond. Vraiment, je tiens à féliciter le concepteur parce qu'il a fait vraiment un bon boulot. Et dire que ça a été fabriqué au Burkina, bon, vraiment, il est vraiment à féliciter.
En plus de la limousine, Ouedraogo a transformé plusieurs voitures standards en cabriolet ou en camion de barbecue. C'est une voiture équipée d'un système de cuisson intégré qui peut être utilisée pour griller de la viande. La voiture contient également un réservoir d'eau potable.
Il aime aussi encore se donner au fond en termes d'innovation, de création et modification du tunnel. En plus, beaucoup de choses. Oui, j'aimerais aussi apprendre aussi et puis faire autre chose, plus apprécier plus que ce que mon patron est en train de faire.
C'est une passion pour nous déjà de créer, d'inventer, de fabriquer des pièces de voitures et de certaines voitures. Voilà, c'est d'abord une passion pour nous. Après maintenant, quand on aura peut-être un financement ou de l'argent, on pourrait maintenant faire maintenant un série et pour la vente.
Sao Ouedraogo présente la limousine au public lors du salon de l'automobile. Le véhicule est souvent loué pour des mariages et d'autres événements, mais son inventeur affirme qu'il n'est pas à vendre.
Nous sommes en ligne avec Gilles Dasda, notre correspondant à Ouagadougou. Gilles Das, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Comment Sao Ouedraogo prévoit-il d'étendre son savoir-faire ou d'inspirer une nouvelle génération de mécaniciens au Burkina Faso?
Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il a lancé une école, un centre de formation. Je viens de l'avoir au téléphone il n'y a pas longtemps. Il me dit qu'il a mis au service du gouvernement burkinabé près de 30 millions, une bourse de près de 30 millions pour apprendre aux jeunes à venir et apprendre ce que lui, il sait déjà. Donc, c'est ce qu'il veut faire déjà. Et il y a beaucoup d'autres jeunes qui se sont intéressés déjà à ce qu'il fait, parce qu'il a aussi mis en place une école pour apprendre à conduire aux jeunes et les jeunes qui apprennent à l'auto-école. Et ceux qui veulent continuer dans ce qu'on appelle le drift, à savoir la conduite de course, il leur permet de se perfectionner. Il leur permet aussi d'apprendre comment tuner les moteurs pour que les moteurs soient plus puissants, comment maîtriser le moteur pour bien rouler le véhicule sans que le véhicule ne se casse plus facilement.
Oui, c'est déjà l'impact de ces créations et la perception de l'ingéniosité locale et des opportunités qui s'ouvrent pour 2025 plutôt. Gildas, comment les créations de Sao Ouédraogo ont-elles évolué et quelles sont ses ambitions pour l'automobile locale au Burkina Faso?
Il faut déjà dire qu'il a, continué. Après, nous avons fait le reportage qui est paru en juillet. Il a continué, il a fabriqué d'autres cabriolets, il a fabriqué des décapotables. Et il y a son salon de l'automobile à Ouagadougou qui s'est tenu en fin de cette année. Et lors de ce salon, il nous a été permis de voir les perfectionnements qu'il a fait avec d'autres véhicules. Donc l'intention de Sao, de ce qu'il nous a dit actuellement, c'est aussi d'aller au-delà des véhicules qu'il maîtrise, ça veut dire au-delà des véhicules américains, au-delà des véhicules européens. Il nous a parlé tantôt des véhicules chinois qui sont en train de rentrer en Afrique. Il dit que c'est un marché qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser la réparation de ces véhicules-là. Il est déjà en train de se lancer pour ne pas être un peu dépassé par les événements, pour être en avance sur ces véhicules lorsque ces véhicules vont rentrer et que les gens auront besoin de différentes réparations. Donc, il s'est déjà projeté beaucoup plus en avance par rapport à ce qui se passe avec les autres véhicules qu'il y a. Bien sûr, les véhicules américains qui sont très, très demandés au Burkina Faso, qui sont là, il est toujours dans le tuning, à savoir modifier ces véhicules-là pour permettre à certaines personnes qui ne veulent pas passer inaperçues, certains clients ne veulent tout simplement pas passer inaperçus, des véhicules rutilants qui font beaucoup de bruit, il arrive à faire ces modifications, ou des véhicules qui ont moins de place que lorsqu'ils sont sortis à l'origine, il arrive à faire ces modifications, ou des véhicules qui ont plus de place. Donc, il est vraiment concentré sur son projet pour aider à aller au-delà de ce que les véhicules d'origine peuvent donner à la clientèle dès leur sortie.
Merci beaucoup, Gildas, pour toutes ces précisions et nous souhaitons bonne chance à Sao Ouédraogo dans ses innovations. En 2024, des artistes nigériens et béninois se sont unis dans une initiative musicale pour promouvoir la paix, malgré les tensions diplomatiques entre leurs deux pays. Leur message transcende les frontières et illustre le pouvoir de la culture comme vecteur d'unité. Abdullah Razak Idrissa donne les détails.
C'est quelques jours après son retour de Parakou au Bénin où la chanson a été enregistrée, qu'Aziz Tony nous reçoit dans son studio à Niamey pour nous parler du projet de cette chanson.
Cette idée, elle est venue de Bourousman qui est au Bénin, qui est le président des artistes du septentrion du Bénin. Donc il m'a appelé, il m'a dit bon voilà, on est des artistes. On doit jouer notre rôle d'artiste.
Aziz Tony approuve l'idée et y associe deux autres artistes nigériens. Ensemble, ils décident de se rendre au Bénin pour l'enregistrement, sauf que la frontière entre les deux pays est fermée.
On a pris un vol par le Burkina, on est parti passer par Cotonou, on est rentré à Parakou. C'est à côté, c'est plus proche de passer par Gaya, par Malanville et se rendre à Parakou, c'est plus proche. Mais bon voilà, comme ça s'imposait, on a dû faire le détour et pour s'y rendre quoi, parce qu'il fallait que tout coup de feu se sonne pour appeler vraiment à la paix, à la calmer.
Le son et le clip sont produits et diffusés. En quelques jours, ils cartonnent sur les plateformes de diffusion et sur les réseaux sociaux.
J'ai vraiment beaucoup aimé ce son et c'est vraiment un acte très salutaire.
Ce que j'ai beaucoup aimé, ils ont utilisé nos langues nationales. Ça montre combien de fois on est unis.
C'est vraiment une bonne idée pour que les dirigeants puissent prendre conscience à travers les paroles.
Un succès et des retours positifs qui ont surpris les initiateurs même de la chanson.
Ce projet, je ne l'ai pas imaginé sur la posture sur laquelle il est. En fait, les retours qu'on a, c'est de partout, la sous-région, jusqu'à l'Europe. J'ai des retours énormes par rapport à ce son. Et en fait, les gens ne cessent de dire « Ah, il fallait y penser. Ah, il fallait y penser. Ah, l'initiative, elle est salutaire. Ah, vous avez bien fait. » Je dis dedans, il est temps qu'on vienne s'asseoir, qu'on se parle entre nous, qu'on mette de l'eau dans nos vins, pour l'amour de Dieu. Voilà, c'est ça le message de mon couplet.
Les autorités militaires nigériennes gardent toujours la frontière fermée pour des raisons, disent-elles, de sécurité. Depuis le 5 juin, 5 Nigériens travaillant pour la société en charge du pipeline pétrolier devant acheminer le brut au port de Sémé sont détenus par les services béninois de sécurité. Niamey parle de kidnapping. Ces artistes espèrent que leur appel sera entendu. Abdul Razak Idrissa pour VOA Afrique. Niamey.
Nous revisitons cet événement avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa. Razak, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric.
Quels projets ou collaborations sont envisagés pour renforcer ce message de paix en 2025?
Alors, nous avions, pour bien répondre à cette question, échangé il y a quelques instants, quelques minutes avec un des artistes, l'artiste que vous avez suivi notamment dans le reportage, Aziz Tony, sur les futurs projets de collaboration. Alors, ce que lui, il dit pour l'instant, ils ne sont pas en train de travailler sur un projet de collaboration. Ils avaient plutôt envisagé, au cas où la situation s'est normalisée, donc de se baser sur leur projet, donc de cette chanson, pour faire une campagne, une tournée dans les deux pays. Mais pour l'instant, et comme vous le savez, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée. La frontière est toujours fermée du côté du Niger, même s'il y a eu quelques avancées, puisque des deux côtés, il y a eu des missions. Une mission béninoise a séjourné ici au Niger. Deux fois, le CNSP a envoyé des missions au niveau du Bénin. Mais la réalité sur le terrain, c'est que la frontière est toujours fermée. C'est la frontière terrestre, puisque vous savez que le Niger et le Bénin sont séparés par une frontière naturelle qui est le fleuve. Là-dessus, il y a quand même des allers-retours qui se font, qui continuent. Mais officiellement, et c'est du fait du Niger, la frontière reste toujours encore fermée. Donc, ce que l'artiste nous a dit, c'est qu'ils ne sont pas en train, en tout cas, il n'est pas envisagé pour 2025 notamment, un quelconque projet de coopération culturelle pour justement aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens de l'appel à la paix entre les deux pays.
Outre le Bénin et Razak, peut-on s'attendre à d'autres collaborations artistiques transfrontalières rapidement?
C'est possible, même si je n'ai pas assez d'éléments pour répondre à cette question. Mais c'est possible, puisque quand même, dans les échanges que j'ai eus avec Aziz Tony, il me disait que le rôle des artistes, c'est justement d'appeler à la paix. C'est ce qu'eux, ils ont fait. Et certainement, donc, d'autres artistes vont se saisir de cette question pour pouvoir entreprendre des actions allant dans le sens d'appeler à l'apaisement, d'appeler à la retour à la normalité entre les deux pays. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu écho d'un quelconque projet entre des artistes, que ce soit béninois ou nigériens, pour travailler sur cela, à part ce que ces artistes ont fait jusqu'ici.
Avec peut-être des artistes burkinabés ou maliens au sein de l'AES. Merci beaucoup, Abdul Razak Idrissa, pour toutes ces précisions. Le forum sur le pastoralisme organisé à Nouakchott a permis d'évaluer les progrès du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le PRAPS. Cependant, la mobilité des éleveurs, la gouvernance financière et la sécurité alimentaire restent des défis pressants pour l'avenir de ce monde de ce mode de vie crucial dans la région. Mohamed Diop a suivi pour vous. Suivez son reportage.
10 ans après la déclaration de Nouakchott, le CILS, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, dresse le bilan du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, soutenu par la Banque mondiale et son directeur régional, Shakib Yenan.
Nous avons vu la création de plus de 560 puits et points d'eau, l'établissement de 360 marchés pour le bétail, le développement de 4200 km de corridors pour le déplacement des troupeaux, la vaccination de 600 millions d'animaux et la gestion durable de plus de 11 millions d'hectares en zone pastorale.
Ce bilan est appuyé par Abdoulaye Mohamedou, secrétaire exécutif du CILS.
En termes économiques également, plus de 300 marchés de bétail ont été construits grâce à l'intervention des projets. Cela est important parce que ça facilite les transactions commerciales. Ça facilite également la collecte de la fiscalité locale pour les collectivités territoriales parce que la dimension économique va au-delà seulement de l'amélioration des revenus des producteurs, mais c'est pour toute l'économie locale et régionale.
Cependant, les défis persistent, notamment en matière de mobilité pastorale. Les jeunes ambassadeurs du pastoralisme, représentés par Yudé Issa Demon du Bénin, alertent sur ce problème.
Certains pays aujourd'hui se referment et cela renforce encore une certaine division, alors que le pastoralisme a pour mode stratégique pour pouvoir utiliser les ressources, la mobilité. Et cette mobilité est aujourd'hui confrontée à un problème.
Les participants recommandent aussi d'améliorer la gouvernance foncière pour apaiser les tensions entre éleveurs et agriculteurs, comme le souligne Aliou Dembakebe, directeur du programme Afrique de l'Ouest de Peace Nexus.
L'agro-business est en train d'occuper les espaces où les éleveurs passaient traditionnellement. Et c'est ce qui amène les heurts. Et l'autre chose aussi, c'est les ressources, c'est l'eau, principalement aussi, qui constitue un problème. Donc de plus en plus, ce sont ces questions principalement qu'il faut attaquer avant d'attendre les conséquences qui sont justement les heurts, les conflits et de plus en plus qui sont en train de prendre de l'ampleur.
Enfin, le secrétaire exécutif du CILS appelle à investir massivement dans la production fourragère pour garantir une alimentation animale stable et réduire la dépendance à la pluviométrie. Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.
Et sans transition, nous retrouvons Mohamed Diop. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Comment le PRAPS prévoit-il d'adresser les défis liés à la gouvernance et à la sécurité alimentaire dans les années à venir?
En fait, le forum de Nouakchott, si on peut dire, a mis en lumière sur des avancées telles que la gestion durable, pastoraux, 559 points d'eau et la sécurisation de 4200 km de couloirs de transhumance. Toutefois, comme vous l'avez mentionné, face au défi du changement climatique, de l'insécurité et de la pression foncière, les participants ont recommandé de sécuriser les terres agro-pastorales, d'améliorer la gouvernance foncière et de développer des chaînes de valeur durable, comme l'approvisionnement en aliments pour le bétail et la transformation du lait local, pour renforcer la résilience des systèmes pastoraux.
Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott, merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Ces récits nous rappellent que malgré les obstacles, la résilience et la créativité continuent d'animer les peuples du Sahel. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour suivre l'évolution de ces initiatives et explorer d'autres perspectives prometteuses. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté ces nouvelles de la région. Eric Manilakidza a été avec vous au micro. Michel Claire-Joseph, Lionel Lunanilagaïma, Georges et Léonard Sagno, Firmé Koyaweda, Joselle Morissin, Arzuma Compaoré et Trésor Matondo ont tour à tour assuré la production, la réalisation de Focus Sahel tout au long de l'année. Un grand merci à eux. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Encore une fois, joyeux Noël chez vous. À l'année prochaine.